Michael Dandine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes criminologue à l'Université de Liège. Aujourd'hui, au procès des attentats de Bruxelles, le parquet fédéral s'est lancé dans la troisième journée de son réquisitoire. Les procureurs fédéraux ont requis la culpabilité de Salah Abdeslam en tant que co-auteur d'assassinat terroriste et de tentative d'assassinat terroriste. Bien que ça arrive aujourd'hui, c'est une chose à laquelle on devait s'attendre, non ?
Disons qu'il faut, je pense, remettre les choses dans leur contexte, à savoir que le réquisitoire du parquet, c'est la prise de position d'une des parties au procès, à savoir le parquet qui nous représente finalement, nous tous, la société au sein de ce parquet, et traditionnellement, dans ce qui est aussi, en dépit de l'arrêté dramatique des enjeux hein, de ces attentats et des victimes qu'ils ont fait, un jeu judiciaire, le parquet dans son rôle, il est quasi toujours maximaliste hein, dans ses réquisitions, c'est pas pour autant qu'il va être suivi. En tout cas, on l'a vu, non pas seulement sur Salah Abdeslam, mais aussi sur d'autres accusés. Il entend englober dans la liste de ceux qu'il juge lui-même. Mais c'est son jugement à lui. On verra si le jury le suit comme auteur des attentats. Un certain nombre de protagonistes, considérant que pour les uns, comme pour Mohamed Abrini, les préparatifs et l'attentat en lui-même avait déjà commencé lorsqu'il s'est désisté. Et pour Salah Abdeslam, que la vie avec la cellule terroriste depuis les attentats de Paris, en dépit du fait qu'il avait été arrêté avant ces attentats, et une arrestation qu'il faut rappeler, dont il faut rappeler qu'elle a vraisemblablement précipité les attentats à Bruxelles et ce jour-là, alors que la cellule entendait plutôt frapper plus tard et en France, eh bien, cette vie, cette absence de dénonciation, ce fait qu'ils vivaient avec des terroristes qui avaient un projet d'attentat en gestation, pour eux, suffit en tout cas à le faire porter la responsabilité pénale d'un assassinat terroriste, de plusieurs assassinats terroristes et de tentatives d'assassinat terroriste, comme si finalement il avait été dans la peau de ceux qui se sont désistés au dernier moment, ou comme s'il avait été dans la peau de ceux qui ne sont plus dans le box aujourd'hui parce que morts, à savoir les kamikazes.
Justement, comme vous le rappelez, Salah Abdeslam, lui, maintient le fait qu'il n'était pas au courant de ces attentats parce qu'il avait été arrêté avant. Vu le profil du personnage et son historique, c'est un argument complètement non recevable, non ?
Moi, je ne vais pas me substituer au jury qui va devoir trancher cette question. Bien que cette question, telle que vous la formulez, c'est une question plutôt de logique juridique et pas nécessairement de logique juridique, à savoir que le droit répond à des canons bien précis. Et même s'il savait que des attentats étaient en préparation, est-ce que ça suffira pour faire qu'il soit jugé co-auteur? Je rappelle néanmoins que c'est un jury populaire et pas un jury de techniciens, qu'on a eu le cas pour les procès des attentats de Paris en France, qui va se prononcer. Cela étant, oui, sur le fond, indépendamment de la lecture et de la réponse judiciaire, il est difficile de considérer que c'était un club de lecture qui était en réunion ou un club de Scrabble. C'était une cellule terroriste qui avait des contacts avec les commanditaires en Syrie et notamment Oussama Attar, dont je rappelle qu'il est parmi les accusés. Le parquet a requis si contre lui un statut de co-auteur des attentats terroristes, bien entendu, puisqu'il en aurait été la tête pensante, et que cette vie de assez longue finalement entre Paris et les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles, eh bien, ne doit pas laisser planer de doute sur ce qui est en gestation. Et donc, le débat va plutôt être un débat davantage d'une lecture judiciaire, de savoir si, au final, en raison de son arrestation et donc son impossibilité matérielle de participer à toute proximité aux attentats de Bruxelles, s'il peut néanmoins être jugé comme co-auteur de ceci. Donc c'est quand même quelque chose de, dans mon avis, tangent et discutable.
Vous avez parlé de Oussama Attar. Le parquet fédéral a également requis la culpabilité d'Ali El Haddad Assoufi en qualité de co-auteur. Ça fait trois personnes, Salah Abdeslam, Oussama Attar et Ali El Haddad Assoufi. Petit à petit, on voit le bout du tunnel.
Il y a aussi évidemment Oussama Krayem, Mohamed Abrini, qui eux, puisqu'ils se sont arrêtés au dernier moment, sont mis en quelque sorte dans le même sac. On revient à cette grille de lecture plutôt maximaliste du parquet. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir également en fin de processus, avant le délibéré, les plaidoiries de la défense, et que cet argument contre-argument est sur base de cette confrontation argumentaire que le jury va devoir décider. Une fois en dehors de la lecture judiciaire qui produit une vérité judiciaire, dont tout le monde sait qu'elle est imparfaite, mais ça c'est le jeu de la justice, il y a une réalité plus pragmatique, plus criminologique, dirais-je, pour ce qui me concerne, de ces individus, et des questions assez fondamentales qui consistent à dire, dans le cas de Talat Desslem, pouvait-il ignorer ce qui était en gestation alors qu'il a vécu au cœur de ce groupe qui était une cellule terroriste? Et donc l'appellation cellule terroriste relate bien quelle était à la fois son essence et son projet. Et pour d'autres qui ont occupé des rôles un peu plus périphériques, peut-être encore que le sien, pouvait-il ignorer ce qui était en gestation? Et cette connaissance et cette participation déterminera qui est auteur-co-auteur, qui est complice, qui est juste membre, éventuellement sans être co-auteur ou complice des attentats d'une organisation terroriste, ce qui est une infraction pénale chez nous. Et puis peut-être pour ceux qui sont les plus périphériques, qui ont joué des rôles plus subalternes, s'ils peuvent, et je pense notamment à certains accusés, éventuellement à échapper à une grande partie des charges qui pèsent contre eux, parce que tout va dépendre de l'endroit où on va placer le curseur de la choréité, donc le fait d'être co-auteur, ou bien de la complicité, ou bien tout simplement de ne pas avoir participé. Et c'est tout l'enjeu finalement de ce procès qui n'avait pas à son origine beaucoup d'inconnus sur le déroulement des faits eu égard au dossier, dans lequel les débats, puisque c'est un procès dont il faut rappeler qu'en assise, il est essentiellement oral chez nous, n'ont pas apporté de grands éclats de vérité et qui, sauf revirement de dernière minute, puisque les accusés pourront encore une dernière fois prendre la parole, eh bien, n'a pas fait de la lumière sur quelques questions qui restent en suspens. Et donc, finalement, tout l'enjeu, c'était de savoir précisément où on allait mettre ce curseur pour d'abord définir des culpabilités et de quoi certains sont éventuellement coupable, et en fonction de ce que le jury décidera, avec une deuxième phase de délibéré et à nouveau des réquisitions et des plaidoiries qui le précéderont sur la peine par rapport à ces culpabilités qui sont établies.
Une question peut-être un peu naïve, Michael Dantine. Vous avez dit que certains accusés pourraient échapper aux accusations qu'il y a contre eux, mais comment vont-ils faire pour y échapper alors que le jury est populaire et que la Belgique a été touchée dans sa chair avec ces attentats?
Le jury est un jury populaire, mais il est mis sur le chemin du droit à la fois par les débats qui lui précisent les contours du droit, par les questions aussi qui lui sont posées et auxquelles le jury doit, dans son délibéré, donc dans sa délibération, répondre. Le jury ne délibère pas dans le vide à pouce levé. Ces questions et les éléments nécessaires à ces questions, ils sont bien précisé au jury pour lui permettre d'avoir un raisonnement qui est encaqué en quelque sorte dans le droit. C'est le principe d'avoir des citoyens qui rendent justice, mais j'ai une justice qui ne fait pas abstraction du droit. Bien sûr, ils ont des émotions. Bien sûr, ce ne sont pas des spécialistes, peut-être, qui ont l'habitude de mettre leur humanité, entre guillemets, c'est-à-dire leur côté humain, leurs émotions humaines de côté, comme peuvent le faire les magistrats qui sont professionnels. Et c'est pour ça, notamment, qu'ils revêtent l'habit pour montrer qu'ils ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions les mêmes hommes et femmes qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Mais il n'empêche que on comprendrait mal que des individus qui ont mené peut-être des tâches d'exécution, si vous voulez, celui qui a prêté son appartement, celui qui a été le nettoyer, ou qui ont prêté un concours plus ponctuel, soit jugé pour l'ensemble des mêmes faits coupable que de la même manière que ceux qui ont été à toute proximité des faits, en ce compris ceux qui ont été sur les théâtres des attentats, l'aéroport ou le métro, et qui se sont désistés au dernier moment. Il y aura de toute façon une gradation, et à ce titre, tout le monde ne sera vraisemblablement, et ça me semble logique, pas condamné des mêmes chefs, et donc du coup, puisque pas des mêmes chefs, pas dans le même rôle, pas pour la même responsabilité, et donc pas aux mêmes peines.
Pour finir, on parlait de Mohamed Abrini tout à l'heure. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de liste de participants aux attentats. Tout le monde était prévu. Si vous étiez dans les plans, c'est que vous étiez prévu pour les attaques. Ce genre de déclaration va-t-il, lui, le permettre de dénoncer les autres pour sauver sa propre peau?
Vous aurez constaté, comme moi, qu'il n'a pas participé au débat aujourd'hui alors qu'il était présent les autres jours. Peut-être savait-il qu'un certain nombre de déclarations qu'il a faites allaient le placer en porte-à-faux. Lorsque l'on suit dans ce procès, comme dans celui de Paris d'ailleurs précédemment, les lignes de défense, les déclarations des uns et des autres, on voit quand même une certaines formes, sinon pas de solidarité entre les accusés, mais en tout cas une espèce de règle tacite selon laquelle on essaie de se défendre, mais pas en enfonçant les autres. Et c'est d'ailleurs le reflet de toute la complexité des liens qui unissent les différents protagonistes aujourd'hui dans le box, qui amis d'enfance, qui anciens complices de délinquance ordinaire, qui connaissances de connaissances, qui liés par le lien du quartier, le lien du voisinage, le lien de la famille éloignée parfois. Eh bien, toute cette complexité relationnelle, elle se traduit là-dedans, dans ces types de prises de position. Quant au fond de sa déclaration, ça me semble relativement évident quand on connaît les dynamiques qui existent dans les cellules ou dans les groupes terroristes, à savoir, à un moment donné, un groupe, c'est-à-dire la somme formée par tous les individus, mais qui le dépasse, c'est ça le principe d'un groupe, qui exerce une forme de pression sur les individus. Et c'est notamment ces liens du groupe et cette pression du groupe qui fait que, à un moment donné, un certain nombre d'individus de ce groupe vont jusqu'à la commission de l'attentat, où ils tuent des gens, mais aussi organisent leur propre mort. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette pression du groupe, si on veut s'en soustraire, eh bien on s'en soustrait au moment où on échappe à son contrôle, à savoir le jour J, comme faire vraisemblablement Salah Abdeslam à Paris, comme faire Mohamed Abrini ou Oussama Krayem, qui au dernier moment, parce qu'ils ne sont plus sous la pression du groupe, eh bien, se désistent et donc échappent à cette pression pour ne pas commettre ces faits et ou organiser leur propre mort, ce qui leur semble difficile. Et donc, l'idée selon laquelle, en effet, lorsque l'on vit plusieurs semaines, plusieurs mois même, avec une cellule qui prépare des attentats, et qu'il n'y a pas de casting pour une phase numéro 3, à savoir que certains devraient survivre pour continuer le combat, eh bien oui, en effet, il est tout à fait plausible, je ne dis pas que c'est vrai, seuls eux le savent, il est tout à fait plausible qu'à un moment donné, tout le monde soit dédié à y aller, et que la seule manière, si vous voulez, de ne pas le faire, c'est de se soustraire au projet, eh bien c'est ce qui explique vraisemblablement ces désistements dans leur mécanique.
Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à l'Université de Liège. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.